Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 15, Daf Tet Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Shlomo gazar le kodashim. Le roi Shlomo est venu et il n'a décrété que le fait que des aliments de kodashim, c'est-à-dire la viande de sacrifice ou d'autres offrandes au temple, si elles sont en contact avec des mains qui n'ont pas été lavées, deviennent impures. Vato inu ve gazur aflitruma et Shamay et Hillel et plus tard leurs élèves sont venus et ont décrété même pour la trauma, que la trauma aussi, si elle est au contact avec des mains qui n'ont pas été lavées, devient inapte. Voilà pour le daf Yud Dalet. Shabbat daf Tetvav. On reprend daf Tetvav Amud Alef à la deuxième ligne à partir du haut, le deuxième mot de la ligne. Goufa Amar Rav Yuda Amar Shmuel Yutret Gazru ou Biyutret Nechleku. On revient à l'enseignement de Rav Yuda au nom de Shmuel, que les 18 décrets qui ont été faits ce jour-là étaient tous les 18 un sujet de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel n'était d'accord sur rien. La Gemara demande Ve'atania Hushvu. Nous avons pourtant appris dans une braïta qu'ils se sont mis d'accord. La Gemara répond Bo Beyom Nechleku ou le Machar Hushvu. Le jour même, ils n'étaient pas d'accord et le lendemain, ils se sont mis d'accord sur la question. Goufa Amar Rav Yuda Beshlosha Mekomot Nechleku Shammai Ve'Hillel. On revient à l'enseignement de Ravuna qui a dit que seulement sur 3 points ont discuté Shammai et Hillel. Le premier point est Shammai Omer Mikav Chala. Shammai dit c'est d'une quantité d'un kav de farine dans la pâte qu'il faut prélever la chala, le prélèvement qu'on donne au Kohen. Ve'Hillel Omer Mikabaim. Et Hillel dit seulement si on a une quantité de 2 kavs dans la pâte, il faut prélever la challah. C'est seulement si on a une pâte dans laquelle il y a la quantité équivalente à une part quotidienne de manne qu'on ramassait dans le désert, qu'il y a l'obligation de prélever le prélèvement challah qu'on donne au Kohen pour qu'il le mange en étant pur. Une part de manne était 1/10 de Hepha. Un Hepha vaut 18 kavs. Il est là une façon particulière qui est cependant commune dans la Torah de calculer les fractions. Ça s'appelle millebar à l'extérieur. On calcule le 1/10 du Hepha et 1/10. Ici, ça donne 2 kavs. En effet, c'est le 1/10 de 18 kavs et 1/10. Voilà pourquoi l'avis de Hillel est qu'une part de manne est 2 kavs. Shammai fait le même calcul qu'Hillel, mais il pense que la quantité de pâte qui nécessite challah est la quantité de manne d'un seul repas, soit un demi Hepha. Ça donne 1 kav. Vachachamim omrim, lo kedivreze ve lo kedivreze. Et les sages ne disent ni comme Shammai ni comme Hillel. Et là, kavu merza chayav vechala, seulement un kav et demi à l'obligation qu'on en prélève la chala. La différence entre l'avis de Hillel et Chachamim est minime. Les Chachamim calculent 1/10 quand on a l'habitude de calculer les fractions. Une part de man vaut donc 1,8 kav en mesure du désert, ce qui équivaut à 1,5 kav en mesure de Jérusalem, qui vaut 1/6 de plus que celle du désert. Ils ont rajouté aux mesures lorsqu'ils étaient à Jérusalem. 1 kav égale 4 logs, donc d'après Chachamim, il faut 6 logs en mesure de Jérusalem. Mishéhigdilu hamidot amru, chameshet rvaim kema chayavin bechala. À partir du moment où ils ont agrandi les mesures, en effet, ils ont rajouté 1/6 à Tzipori, ils ont donc dit que 5 quarts de cave, c'est-à-dire 5 logs de farine, si on en a fait une pâte, on a l'obligation de prélever la chala. Rabbi Yossi Omer, Chamisha Pturim, Rabbi Yossi dit, si on a juste 5 logs, on est exempté de prélever la chala. Chamisha Ve'od Chayavin, si on a plus de 5 logs, c'est-à-dire 1/20 de plus que 5 logs, on a l'obligation de prélever la chala, puisque d'après Rabbi Yossi, la mesure du désert valait 1/20 de plus que ce qu'on croit. Donc ça c'est la première discussion qu'il y avait entre Shammai et Hillel. Veidar. Et la deuxième discussion entre Shammai et Hillel. Hillel Omer, Melohin Maim Sheuvim, Poslin et Amikve. Hillel dit, si on a une quantité d'un hin entier. Un hin, c'est 12 logs d'eau puisée. Si on a versé cela avant que le mikvé ait la quantité nécessaire d'eau de pluie ou d'eau pas puisée, cette eau puisée qu'on a versée dedans rend inapte le mikvé des Rabbanan. Alors, la quantité qu'il faut, c'est 12 logs d'après Hillel. Pourquoi est-ce qu'il a employé le mot hin, qui n'est en général pas employé dans le langage de la Mishnah, seulement dans la Torah? Shechayav Adam Lomar Bilshon Rabo, car l'homme a l'obligation d'employer les termes de son maître. Shmaya et Aftalion, qui étaient les maîtres d'Hillel, avaient dit en ces termes. Shamay Omer, Tisha Kabin, Shamay dit, c'est seulement s'il y a 9 caves ou 36 logs d'eau puisée qui rend inapte le mikvé. Vechachamim Omrim, lo ki divreze ve lo ki divreze, et Chachamim disent ni comme Shamay ni comme Hillel, ad shebaou shne gardim mishar ha'ashpa shebirushalayim, ve'idu mishum Shmaya ve'Aftalion, shlosha lugin ma'im shuvin poslin et amikve. Jusqu'à ce que deux tisserands sont venus de la porte des ordures de Jérusalem, et ils ont témoigné au nom de Shmaya et Aftalion que 3 logs d'eau puisée rendent inapte le mikvé. Vekimu Chachamim et Divrehem, et les Chachamim, les sages, ont accepté leurs propos. Rashi n'explique pas la raison des différents avis, mais le Ravat sur la Mishnah dans Edouyot explique que Hillel a choisi le plus grand volume cité dans la Torah, qui est celui de Hin, et qui a donc de l'importance. Alors que Chachamim ont choisi le plus petit volume de vin versé sur l'autel, qui est dit dans la Torah sous forme de Revit à Hin, le quart d'un Hin, qui est 3 logs. Puisqu'il a aussi de l'importance, cette quantité d'eau suffit pour abîmer le mikvé. Et Shamaï pense que seule une quantité suffisante à laver toute la personne, 9 cabines, a la capacité d'abîmer le mikvé. Vehidar est la troisième discussion entre Shamaï et Hillel. Shamaï Omer, Kol Hanashim, Dayan Shahatan. Shamaï dit, toutes les femmes qui deviennent Nida, qui commencent à avoir des règles, il suffit qu'elles soient considérées comme impures à partir du moment où elles ont vu qu'elles saignaient. Tout ce qu'elles avaient touché auparavant reste pur. On ne craint pas qu'elle avait déjà commencé à saigner avant qu'elle n'ait vu. Vihilel Omer, Mipkida Lepkida, et Hillel dit, à partir de la dernière vérification, tout ce qu'elle avait touché devient impur rétroactivement, car on craint que depuis la dernière vérification, aussitôt après, elle a commencé à saigner. Ve'afilu le'yamim harbe, et même si c'est de nombreux jours depuis la dernière vérification. Ve'chachamim omrim, lo kedivreze ve'lo kedivreze. Et Chachamim ne disent ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, me'et le'et me'et al'yede mi'pkida le'pkida. Mais le temps des dernières 24 heures diminue le temps depuis la dernière vérification. C'est-à-dire que si la dernière vérification date de plus de 24 heures, on ne compte que depuis 24 heures avant le moment où elle a vu qu'elle saignait et tout ce qu'elle avait touché pendant ces 24 heures devient impur. Ou mi'pkida le'pkida me'et al'yede me'et le'et. Et la dernière vérification diminue le temps des dernières 24 heures, c'est-à-dire que si elle a vérifié dans un temps plus court que les dernières 24 heures, on ne craint qu'à partir du moment où elle a vérifié, puisque c'est sûr qu'elle n'avait pas saigné auparavant. On choisit donc le plus court. Voilà la troisième discussion entre Shammai et Hillel. La Gemara demande, « Vé tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres discussions entre Shammai et Hillel ?» Vaïka, Hillel Omer Lismor. Il y a pourtant la discussion citée dans la Mishnah de Chagiga. De nombreux sages ont discuté sur ce point-là. Hillel dit qu'on appuie avec les mains sur la tête du sacrifice avant de l'approcher à Yom Tov, quoiqu'en général, il y a une interdiction des Rabbanan de se servir d'un animal à Yom Tov. Là, pour l'approcher, on a le droit. Le Shammai Omer Shelo Lismor. Et Shammai dit qu'on n'a pas le droit d'appuyer avec les mains sur la tête du sacrifice pour l'approcher à Yom Tov. On voit donc qu'il y a encore une discussion. L'Agmar répond, Kikama Ravuna, Echadeleka Plukta de Ravuta Bahadayu. Quand est-ce que Ravuna a cité les trois discussions? Il n'a cité que des choses au sujet duquel il n'y a pas de discussion entre les maîtres de Shammai et Hillel avec leur discussion à eux. Alors que cette discussion-là, comme on a dit, dans Chagiga, il y a d'autres générations, des maîtres avant Shammai et Hillel et après Shammai et Hillel, qui ont continué cette discussion, et c'est pourquoi ça ne fait pas partie des discussions comptées par Ravuna. La Gemara demande, Vehaïka, il y a pourtant encore une discussion entre Shammai et Hillel, Habotser Legat, celui qui vendange pour faire du vin, et les raisins sont mouillés par du jus qui a finalement coulé. Alors, d'une part, il aurait envie que le jus coule des raisins, puisque c'est pour le vin. D'autre part, ici, ce jus est perdu, car les corbeilles sont trouées. La question est-ce que ce liquide a rendu aptes les raisins à devenir impurs, ou pas? Plus loin, au Daf Yud Zayin, la Gemara explique les raisons de considérer ce liquide comme s'il était désiré. Shammai Omer Urshar, Shammai dit, les raisins sont aptes à devenir impurs. C'est un décret de peur qu'il ne vendange dans des récipients étanches où il aura intérêt à ce que le jus commence à couler pour le vin. Vilel Omer Lohurchar, et il le dit, puisqu'il n'a aucun intérêt dans ce jus, les raisins ne sont pas devenus aptes à devenir impurs. L'Agma répond, Bar Mine Dehai, on ne tient pas compte de cette discussion-là, Dehatam Kashatik Lehilel Le Shammai, car là-bas, Hillel s'est tu par rapport à Shammai, c'est-à-dire qu'il a accepté les propos de Shammai, et c'est pourquoi on ne considère pas ce point-là comme une discussion entre eux. On a vu dans la Braïta du Daf précédent, Yossi ben Yoezer ish Tzreda, ve Yossi ben Yochanan ish Yerushalayim, gazrut Tuma al Eres Ha'amim ve al Klei Zchuchit. Yossi ben Yoezer de Tzreda et Yossi ben Yochanan de Jérusalem ont décrété une impureté sur la terre des peuples, c'est-à-dire toutes les terres à part Israël, et ils ont décrété que les objets de verre peuvent devenir impurs. La Gemara demande, Vehar Rabbanan Deshmonim Shana Gazor, c'est pourtant les sages qui étaient 80 ans avant la destruction du temple qui ont décrété cela. D'Amar Rav Kahana, Keshechala Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Shalchulo, Rabbi Emor Lanu, Bet Vegimel Dvarim, Sheamarta Mishum Avicha. Car Rav Kahana a dit, lorsque Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi était malade, les sages lui ont demandé, « Notre maître, dis-nous deux ou trois choses que tu as dit au nom de ton père, Rabbi Yossi. » « Shalach lahem kach amar Abba. » Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi leur a répondu, leur a envoyé, « Voici comment mon père Rabbi Yossi a dit, « Kuf pei shana ad shelo charav habayit, pashta malchut ha-resha'a al Israël. » 180 ans avant la destruction du temple, l'Empire romain a occupé Israël. Peshana atchelo charav habayit, gazru tuma al eretz ha'amim ve'al klei zchuchit. 80 ans avant que le temple ne soit détruit, ils ont décrété une impureté sur les terres des peuples et sur les objets de verre. Arbaim shana atchelo charav habayit, galtala sanedrin ve'yashvala bechanuyot. 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhedrin, c'est le grand tribunal, s'est exilé de la Lishkat Hagazit, l'endroit particulier où il était au temple, et ils se sont installés dans Chanouyot, c'est un endroit dans la montagne du temple, le Har HaBayit. Le Mahil Cheta, pourquoi est-ce qu'ils ont été ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils se sont exilés? Amar Rabbi Yitzhak Bar Avdimi, Lomar Shelo Danu Dine Knasot. Avitrak Bravdimi a dit, pour dire qu'à partir de ce moment-là, puisqu'ils n'étaient pas à l'endroit habituel, ils n'ont plus jugé les questions d'amende. L'Agmara demande, Dine Knasot Salkadater, est-ce que tu crois vraiment que c'est les questions d'amende qu'ils n'ont plus jugées à partir du moment où ils n'étaient pas où ils étaient? Pourtant, les amendes ne dépendent pas du Sanhedrin, ne dépendent pas du grand tribunal. Et on voit que ça a continué bien après la destruction du temple. Et là, Emma, chez l'autre Danou Dine Nefashot, mais alors c'est pour dire qu'à partir du moment où ils se sont exilés de la Lishkat Hagazit, ils ont arrêté de juger des peines de mort. En tout cas, on voit que l'enseignement de Rabbi Yossi dit que c'est seulement 80 ans avant la destruction du temple qu'on a décrété ces impuretés-là, et ce n'est donc pas Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yochanan. Vritema bepe shana nami inuavu. Et si tu veux dire que 80 ans avant la destruction du temple, ceux qui ont fait ce décret étaient Yossi ben Yochanan et Yossi ben Yoezer, ce sont les mêmes personnes. Vehatania, Hillel veshimon, Gamliel veshimon, Nahagun nesiutan, Bifnei Habayit Me'ashana. Nous avons pourtant appris dans une braïta que Hillel et son fils Shimon, le petit-fils Gamliel et l'arrière-petit-fils Shimon ont été présidents durant les derniers 100 ans du temple. Vilou Yossi ben Yoezer Ishtreda et Yossi ben Yohanan Avukadme Tuva. Et pourtant, Yossi ben Yoezer Ishtreda et Yossi ben Yohanan étaient longtemps avant Hillel. Ça ne peut donc pas être Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan qui étaient 80 ans avant la destruction du temple, puisque même Hillel était 20 ans avant la destruction du temple.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Tet Vav à Moudbet. La Gemara dit Ela atu inu gazur agusha lisrof ve'avira veloklum. Alors il faut dire que Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan ont eux décrété de brûler la trouma qui touche une motte de terre de l'étranger, mais ils n'ont rien décrété du tout sur l'air de l'étranger. C'est-à-dire s'il y a de la trouma qui est dans l'air de l'étranger, ils n'ont rien décrété. Vatu Rabbanan de Peshana, Gazur Avira Litlot, et les sages de 80 ans avant la destruction du temple ont décrété de mettre de côté la trouma qui s'est trouvée en l'air dans l'espace du pays étranger. On ne peut ni la brûler ni la consommer. La Gemara demande les memra de Trila Chadak Xerta Haval Isrefa. Allons-nous dire qu'au départ, au sujet de la motte de terre, c'était un décret qui était directement de brûler la trouma qui était au contact avec la motte de terre. Ve'amar Ilfa, Yadaim Trilat Xeratan Lisrefa. Ilfa a pourtant dit que le décret d'impureté pour les mains qu'on n'a pas encore lavées était dès le départ de brûler la trouma qui serait en contact avec ses mains. Yadaim Hu de Trilat Xeratan Lisrefa, Hamide Achinalo. On déduit que c'est seulement le décret de l'impureté des mains qui était dès le départ de brûler la trouma, mais les autres choses n'étaient pas dès le départ de brûler. Ça s'est fait en plusieurs temps. La Gemara répond Ela atu inhu gazur agusha litlot ve'avira veloklum. Mais alors il faut dire que Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan, eux, ont décrété que la trouma qui a touché une motte de terre de l'étranger doit être suspendue, on ne la brûle pas. Et la trouma qui était dans l'air de l'étranger, ils n'ont rien décrété du tout, il n'y a pas d'impureté du tout. Batu Rabbanan de Peishana, Gazur Agusha Listrof Be'avira Litlot. Et les sages de 80 ans avant la destruction du temple, eux ont décrété que la trouma qui était en contact avec une motte de terre de l'étranger doit être brûlée, et celle qui était dans l'air de l'étranger doit être suspendue, on ne la brûle pas. L'Egmara demande Ve'akati Be'usha Gazur. Mais toujours, je te demanderai qu'en fait, ce décret-là de la terre de l'étranger a été décrété à Usha, qui était plusieurs années après la destruction du temple. Ce n'est donc pas les sages de 80 ans avant la destruction du temple. Ditnan, Alvav Sfekot Sorfin et Atouma. Car nous avons appris dans une Mishnah, il existe 6 doutes qui peuvent provoquer de brûler la Trouma. Al Safek Betapras. À cause du doute du Bet HaPras, c'est un terrain dans lequel on a perdu une tombe. Les sages ont décrété que tout le terrain est impur, et si la trouma est entrée dans n'importe quelle partie de ce terrain, on la considère comme impure et on la brûle. Val Safek Afar Abba Be'eretz Ha'amim, et à cause du doute de la terre venue de l'étranger, qui provient peut-être d'une tombe, Val Safek Bigdei Ha'aretz, et à cause du doute des habits d'un ignorant, sa femme s'est peut-être assise dessus lorsqu'elle avait l'impureté de Nida, Belsafek Kelimanim Tsaim, et à cause du doute des objets qu'on trouve, on ne sait pas s'ils sont impurs ou pas, mais dans le doute on brûle la trouma qui est en contact avec ces objets, Belsafek Harokin, et à cause du doute des crachats, si on trouve un crachat, on ne sait pas de qui ça provient, puisque c'est peut-être d'un Zav, on brûle la trouma qui est en contact avec ce crachat. Vel Safek Meragle Adam, et à cause du doute de l'urine qui provient peut-être d'un homme. Alors là, il y a deux doutes. D'une part, si c'est l'urine d'un homme, et d'autre part, si c'était un zav, cet homme-là. si la Trouma était en contact avec ça, on doit brûler la Trouma, et cela même si cette urine, Shekeneged Meragle Behema, s'est trouvée en face de l'urine d'un animal. Il y aurait donc des raisons de penser que c'est aussi de l'urine animale, et pourtant, quoi qu'il y ait de doute, on brûle la Trouma qui a été en contact avec cette urine. Al-Vadaï Magan, Shiou Safek Tumatan, Sofin et Atrouma. Si on est sûr que la Trouma a touché une de ces six choses, il y a donc un doute sur l'impureté de la Trouma, on brûle la Trouma. On voit donc dans cette Mishnah qu'on brûle la Trouma à cause de l'impureté de la terre étrangère. Rabbi Yossi Omer, Afal Safek Magan, Birshut Hayachid Sofin, Rabbi Yossi dit, même si on a un doute si la Trouma a touché l'une de ces six choses-là, si ça s'est passé dans un lieu privé, on brûle la Trouma. Les Chachamim omrim, Birshut Hayachid Tolin, Birshut Arabim Tehorim. Et les Chachamim disent, si on a un doute si ça a touché dans un lieu privé, on suspend la Trouma, on ne la brûle pas. Et si c'était dans un lieu public qu'il y avait ce doute si la Trouma a été en contact avec une de ces six choses-là ou pas, la Trouma est pure. Vamaroula, Elou Vavsfekot Beusha Itkinu. Et Oula a dit, ces six doutes-là ont été décrétés à Usha. On voit donc que c'était un décret bien plus tard que 80 ans avant la destruction du temple. L'Agma répond autrement, Ela Atu Inu Gazur Agusha Litlot Veavira Veloklum. Mais il faut dire autrement. Yossi ben Yoezer et Yossi ben Tsreda ont eux décrété que la Trouma qui est en contact avec une motte de terre de l'étranger doit être suspendue, et la Trouma qui était dans l'air de l'étranger, on n'en fait rien, c'est-à-dire on peut la manger, il n'y a pas d'impureté. Vatu Rabbanan Deshmonim Shana, Gazur Idi Veidi Litlot. Et les sages de 80 ans avant la destruction du temple ont décrété que soit si la Trouma a touché de la terre de l'étranger, ou soit si elle était dans l'air de l'étranger, il faut suspendre cette Trouma, on ne peut ni la manger ni la brûler. Vatu Beusha, Gazur Agusha Lisrof, Veavira Kedekae Kae. Et ils sont venus à Usha et ils ont décrété que la Trouma qui est en contact avec une motte de terre de l'étranger doit être brûlée, et la Trouma qui était dans l'espace de l'étranger reste comme c'était auparavant, c'est-à-dire qu'on suspend cette Trouma comme les sages de 80 ans avant la destruction du temple avaient décrété. Tosfot font remarquer que la Gemara n'a traité que la question de l'impureté des pays étrangers, mais pas du tout celle des objets de verre, qui a aussi été décrétée à la fois par Yossi ben Yoezer et Yossi ben Yohanan, et à la fois par les sages de 80 ans avant la destruction du temple. Tosfot disent que là-dessus aussi il faut répondre que Yossi et Yossi n'ont décrété que de suspendre la Trouma qui est en contact avec des objets de verre impurs, et les sages de 80 ans avant la destruction du temple ont décrété de brûler cette Trouma au même titre que si elle avait été en contact avec de la poterie qui est impure de Horaïta. La Gemara demande, Kleis Ruchit, Maïtahama Gazur Behu Rabbanan Touma. Les objets de verre, pour quelle raison est-ce que les sages ont décrété une impureté, c'est-à-dire qu'ils ont décrété qu'ils peuvent devenir impurs? Amar Rabbi Yochanan, Amar Resh Lakish, Oil Utrilat Briatan Minachol, Shavinu Rabbanan Kekle Cheres. Rabbi Yochanan a répondu au nom de Resh Lakish, puisque la fabrication du verre est à base de sable, les sages l'ont considéré comme la poterie qui est aussi à base de terre, et qui, elle, devient impure de Horaïta. La Gemara demande, Ela Meata, Lote La Enta Arabe Mikve. Mais s'il en est ainsi, qu'on a comparé les objets de verre à la poterie, les objets de verre ne devraient pas pouvoir être purifiés dans un mikvé. En effet, les objets de terre ne sont purifiés qu'en les brisant et pas en les trempant dans un mikvé. À la Matnan, nous avons pourtant appris dans une Mishnah de Mikvaot, Ve'elu chotzetin bekelim. Voici les substances qui font écran dans les objets quand on les trempe. Hazefet ve'hamor bekleis chochit. Le goudron et la myrrhe dans les objets de verre. Ce sont des substances qui collent même au verre et qui font écran lorsqu'on les trempe. On voit donc dans cette Mishnah de Mikvaot qu'on peut tremper des objets de verre. L'Agmar répond, Hachabemayaskinan, Kegon Shenikvu, Vehitif Letochan Avar. Dans cette Mishnah de Mikvaot, de quoi s'agit-il? D'objets de verre dans lesquels il y a eu un trou. À partir du moment où il y a eu un trou, ça a perdu l'impureté en tant que poterie, et il a coulé à l'intérieur du plomb pour les réparer. Virabi Meiri, Damar, Akololech, Achar Amahamid. Et la Mishnah de Mikvaot suit l'avis de Rabbi Meir qui dit que tout dépend de ce qui fait tenir, c'est-à-dire de la matière employée pour la réparation. Et maintenant, cet objet a un statut d'objet métallique et pas d'objet de verre. C'est pourquoi, si maintenant il est devenu impur, on le trempe dans le mikvé et on peut le purifier comme un objet métallique. Detania, klisruchit shenikvu vehitif letochan avar, comme nous avons appris dans une braïta, les objets de verre dans lesquels il y a eu un trou et dans lesquels on a coulé du plomb pour les réparer. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Meir metame. Rabban Shimon ben Gamliel a dit, Rabbi Meir rend impur, c'est-à-dire qu'il dit que cet objet peut devenir impur en tant qu'objet métallique. Vechachamim metaharin, et les chachamim disent que cet objet ne peut pas devenir impur. Tosfot disent qu'il y a tout de même une impureté de Rabbanan. La réponse de la Gemara est donc que la Mishnah de Mikvaot parle d'objets de verre très particuliers d'après Rabbi Meir, mais en général, la raison de l'impureté du verre reste à cause de la poterie. Voilà pour le Daf Tet Vav. Shabbat Daf Tet Zayin. On reprend Daf Tet Vav Amud Bet, la dernière ligne de la page, les deux derniers mots. Nous avons vu à la fin de la dernière page l'explication de Resh Lakish que les objets de verre ont été comparés à la poterie et c'est à ce titre-là qu'ils deviennent impurs midrabanan. Là-dessus, la Gemara demande « Ela me'ata, mais s'il en est ainsi ?»
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.